Allez, on envoie le bar à la 2, les gars.
Et le brochette de bœuf, un tartare et une prime.
Pour flamber, il faut pencher. Voilà, pour que ça flambe, voilà.
Europe 1.
Hop, hop, assaisonnement, hop, on enlève.
11h, midi 30, la table des bons vivants.
Allez,
Laurent Bariotte.
Oh là là, comme on l'aime, cet horaire. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Il est 11h, nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi et on est ravis de vous retrouver comme tous les samedis depuis le studio Coluche. Le nouvel an chinois, c'est demain. Les festivités commencent ce soir. Alors adieu l'année du tigre. Bonjour l'année du lapin. Et si on cuisinait chinois chez soi ce week-end? Eh bien, c'est ce que nous allons faire avec un invité qui va nous décomplexer, vous allez entendre, avec la cuisine chinoise. C'est vrai qu'on imagine toujours un petit peu complexe. Eh bien, ce ne sera pas le cas ce samedi matin. Voici mes bons vivants du jour. Ce sont, tiens, les deux chroniqueurs historiques de cette émission. Il n'est pas venu les mains vides. La Chine l'inspire jusque dans le verre. C'est Olivier Pouls qu'on peut lire dans la revue du Vin de France. Bonjour Olivier.
Bonjour Laurent, bonjour Yves. Je suis ravi de, qu'on soit tous les trois là. C'est vrai. Ça fait l'impression d'une réunion d'anciens camarades.
C'est la ligue qui soute, reconstitution. L'année du lapin, ça lui parle. Chasseur, à la moutarde ou à l'estragon, notre bistronome en chef ne manque pas d'idées. C'est Yves Candebord. Bonjour Yves.
Bonjour Laurent, moi je vais vous dire, c'est à la moutarde, c'est classique.
C'est vrai que c'est bon ça. Et la comédienne Michèle Bernier vient partager le plat du jour avec nous. Un plat plus montagnard que chinois, vous découvrirez. Allez, on ne change pas nos bonnes habitudes. Quel est votre goût de la semaine? Posez-vous la question et j'aime vous entendre quand je vous croise de temps en temps dans la rue me raconter votre goût de la semaine, vous qui nous écoutez en voiture ou à la maison. Je vous pose la question, tiens. Olivier, votre goût de la semaine?
Alors c'est un grand remerciement d'abord à un ami chasseur qui a un coup de fusil assez sûr. Il s'appelle François, il se reconnaîtra parce qu'il a attrapé, enfin il a tué quelques bécasses. Et il m'en a fait profiter. Il faut savoir que la bécasse est autorisée de chasse, mais interdite de vente.
Absolument.
Le chasseur peut la manger, peut l'offrir, mais il ne peut pas la revendre. Et donc, il a partagé ses bécasses. Alors, c'est moi qui les ai cuisinées. Et j'ai fait une préparation un peu originale. Je les ai fait confire pendant très longtemps dans de la matière grasse, dans du beurre. J'ai effiloché les chairs. J'ai mixé tout ça avec un tout petit peu de foie gras, un peu de cognac, un peu de moutarde.
Oh là.
On a mis ça sur des petits croûtons de pain et on a glissé ça sous le grill du four, juste le temps de le réchauffer pendant quelques instants. C'est un pur bonheur.
Vous en avez pas ramené?
Mais dis donc, oui, c'est beau ça.
On a tout mangé, je vais vous dire qu'on a tout.
Ah ben, je veux bien vous croire.
Alors, il y a bécasse et bécassine, la subtilité des deux. Une fois encore, merci mon cher François.
Eh ben, bravo. On prend ce goût de la bécasse. Yves.
Ah ben, moi, le goût de la semaine, il est saisonnier. Par contre, totalement végétal, c'est les blettes. Hein. Vous savez qu'on connaît la blette traditionnelle, la grosse blette. Maintenant, on voit de plus en plus sur les étals les petites blettes multicolores. Mmh. Ouais, c'est des toutes petites blettes qui sont magnifiques.
Très, très belles. On dirait presque des tiges de rhubarbe pour certaines.
Exactement. Et je me suis fait un gratin de blettes au curry. Avec un beau croustillant de parmesan sur le dessus, c'était merveilleux. Belle tombée d'oignon, un peu de graines de coriandre, le corps des blettes coupé en morceaux.
Faut pas les éplucher, celle-là. Hein.
Faut pas les éplucher. Donc, c'est très facile à faire. Le vert, je l'ai simplement blanchi, dans de l'eau salée. J'ai cuit les blettes comme ça avec un petit jus, simplement mouillé à l'eau et du curry, dans un plat à gratin, en intercalant le corps des blettes, l'oignon et le vert, du parmesan, gratiné au four. Et c'était vraiment d'une subtilité, d'une fraîcheur très agréable.
Redécouvrons la blette grâce à Yves Candebord.
Laurent.
Mon goût de la semaine, eh bien écoutez, j'étais plusieurs jours là à Marseille en reportage pour mon magazine de presse écrite Les Petits Plats. Eh bien mon goût, c'est le goût de Marseille. Et je peux vous dire que j'ai découvert une cuisine marseillaise grâce à des filles créatives, engagées. Je leur rends un grand coup de chapeau à ces Marseillaises. On les verra dans le magazine à partir du mois de mars. J'étais chez Laetitia Viss, la femme du boucher, pour déguster une joue de bœuf magnifique. Chez Regain pour manger un loup exceptionnel. À la maison Payani pour acheter des caillettes. Provision de Jules Cousin, qui est une belle épicerie-librairie. L'idéal de Julia Samu, que j'étais encore hier. Voilà, de belles adresses à Marseille.
Vous avez fait régime, quoi.
J'ai fait régime, j'ai très bien mangé, j'ai bu de bons vins nature. Voilà, c'est vrai que les Marseillaises, attention, elles débarquent en cuisine, qu'on se le dise.
Marseille bouge et devient une vraie capitale gastronomique.
Et comment? Allez, c'est l'heure d'aller au marché, les amis. Charles Guyard, notre correspondant dans l'Ouest, s'est rendu à Agon-Coutainville. Oui, très belle commune, dans la Manche, en Normandie. Et il vous a demandé, tiens, quel était votre plat réconfortant pour affronter l'hiver, parce que ça caille.
Oh bah, on a mangé récemment une choucroute, c'est des plats de saison.
Messieurs, dames, chou-fleur.
Ben, on trouve du chou, on trouve de la betterave rouge, on trouve carottes, pommes de terre, bien sûr.
C'est essentiellement des tourteaux et puis des huîtres.
Soupe aux légumes tous les jours. Des fois, je fais que des soupes de carottes.
Soupe de carottes, ça le rend aimable?
Oui, mais il est toujours aimable.
L'hiver, c'est quand même moins sympa que l'été.
Qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce que cette saison là en ce moment?
Tout de suite, on a dans le chou-fleur, le poireau, l'endive, la clémentine, bientôt la mandarine au riz. Tout ce qui est poire, orange,
tout ce qui est légumes, ouais, tout de suite on est reparti sur la soupe. Oui.
Ouais, on fait des potages.
5 kilos.
Sinon on essaie de manger quand même du poisson. Bon, on va prendre quelques légumes et puis un peu de charcuterie. Et...
Moi je mange beaucoup de poisson, du mulet et du bar.
Merci. Et voilà. Merci bien, bonne journée. Bonne semaine. Ça va le faire.
Et bonne semaine, bien sûr que ça va le faire, dans la Manche, à Agon-Coutainville. Merci Charles Guyard pour ce beau micro-trottoir sur le marché. Un marché que vous connaissez bien, Yves Condebord.
Oui, que je connais très très bien, parce que c'est Agon-Coutainville, j'y vais au moins une dizaine de fois par année. C'est vrai que c'est un marché de producteurs, il y a très très peu de revendeurs. Alors il y a des produits exceptionnels, et j'ai envie de dire, Pascal, un pêcheur, voilà, qui me fait toutes les Saint-Jacques.
La Saint-Jacques de Normandie.
C'est vraiment le moment d'y aller parce qu'on a des produits de qualité à des prix, voilà, qui sont vraiment accessibles au plus grand nombre.
Faisons le marché et redécouvrons ainsi le goût de la saison. C'est pas à vous que je vais dire ça, Olivier Pouls.
Certainement pas.
C'est votre deuxième salon, votre deuxième cuisine, le marché.
Ma première passion.
C'est vrai, hein. Ouais. Soupe de carottes, c'est génial. On vient de l'entendre là dans le reportage. C'est hyper facile. Et on peut s'amuser aussi, tiens, à la customiser, la carotte en salade. Tiens, je vous parlais de Julia Samut à l'Idéal à Marseille où j'étais hier. Elle nous a fait des croquettes de canard avec une salade de carottes assaisonnée avec un mélange de 5 épices, c'était exceptionnel, et un petit peu de citron et d'agrumes. Donc, aussi.
C'est vrai que la carotte cuit, crue, ça fonctionne. Et Laurent, on a quand même une recette exceptionnelle sur le site d'Europe 1, qui est faite par notre charmant Julien Amat, qui fait une salade de carottes râpée au gingembre.
Oui, elle est très très bonne, la salade de carottes de Julien. On lui souhaite un joyeux anniversaire avec un jour de plus. C'était hier, son anniversaire à notre jeune de la rédaction.
Je peux vous dire, je me la suis appropriée à la maison régulièrement.
Et ben vous avez bien fait. Voilà,
on
salue Julien
sur une carotte.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
C'est demain qu'on fête le nouvel an chinois, alors c'est vrai que c'est le moment de redécouvrir la gastronomie de l'empire du milieu. Tiens, Yves, Olivier, mes bons vivants du jour, si je vous dis cuisine chinoise, qu'est-ce que ça évoque pour vous, Olivier?
Alors, beaucoup de choses, parce que j'ai eu la chance de voyager beaucoup en Chine, notamment pour découvrir le vin, et on va en parler dans un instant, j'ai fait une quinzaine de voyages là-bas. Mais on peut pas parler de la cuisine chinoise, parce que la Chine est énorme, on devrait parler des cuisines chinoises. Entre le nord et le sud, ça n'a évidemment rien à voir.
Les provinces sont nombreuses,
mais c'est une cuisine que j'adore, parfois qui arrache un tout petit peu, il faut avoir les papilles de temps en temps un peu préparées. Mais j'ai notamment un souvenir dans le nord de la Chine d'avoir mangé un agneau confit au cumin, qui était un des plus grand plat que j'ai mangé dans ma vie, tellement d'abord le moment était énorme et puis ce plat était fantastique.
Et vous, Yves?
Et moi, c'est très original, parce que quand je suis arrivé à Paris en 1980, j'ai vécu sur la dalle des Olympiades dans le 13e arrondissement.
Oui. Ouais.
Donc en plein quartier chinois de Paris, il y avait un bistrot qui s'appelait le Pyrénéen, qui était tenu par René Lanardoune. Et donc tous les Béarnais, quand on arrivait à Paris, on allait chez lui. Pour moi, c'était une découverte, et on s'est mis à manger régulièrement dans toutes les petites cantines qu'il y avait autour de la dalle des Olympiades. Et ça a été la première découverte, le premier contact que j'ai eu à la cuisine chinoise. Et c'est vrai que c'était savoureux, c'était puissant.
Et parfumé. J'imagine. Alors, les festivités du Nouvel An commencent dès ce soir. Que déguste-t-on pour l'occasion? Eh bien, pour nous guider, j'ai invité Tai Liu, plus connu sur les réseaux sociaux sous le nom du riz jaune. Le riz jaune, précisément, il est avec nous. Bonjour Tai.
Bonjour.
S'appeler Tai pour un chinois, c'est pas banal quand même.
Non, c'est vrai. Tai pour un chinois, ce n'est pas banal.
Merci d'être là. Vous vulgarisez la cuisine asiatique et chinoise, notamment à travers vos vidéos sur YouTube. On retrouve aussi vos recettes dans deux livre, le riz jaune, et puis le petit dernier qui s'appelle Bao, qui est paru aux éditions Larousse. Vous êtes d'origine chinoise par votre papa, c'est ça?
Par le papa, d'origine chinoise et laotienne par la maman.
Et la cuisine asiatique n'a pas de secret pour vous, parce qu'on le voit sur vos réseaux sociaux, vous parlez aussi bien de la cuisine coréenne que de la cuisine vietnamienne et bien entendu de la cuisine chinoise.
Tout à fait. Hein? On essaye un petit peu de faire connaître la cuisine asiatique en général. C'est vrai que, comme tout à l'heure quand vous parlez, pas une cuisine chinoise, mais des cuisines chinoises.
Et nous, on mélange un peu tout ici, en fait.
C'est vrai que
c'est pour ça.
Tout se ramène à la cuisine chinoise.
On va remettre les pendules à l'heure avec vous. Quels sont vos souvenirs, tiens, Tai, de Nouvel An? Comment ça se passe dans une famille chinoise, le Nouvel An?
pour mes propres souvenirs, lors du repas du réveillon, généralement, c'est tout est en quantité. Donc le fameux jiaozi, c'est commun, je pense, à tous les repas qu'il puisse y avoir lors du réveillon. Donc c'est ces fameux raviolis chinois, souvent plutôt cuits à l'eau, qui nous rappellent un petit peu des lingots d'argent chinois. Donc en manger amène de la richesse.
Oui, il y a de la superstition hein, dans le Nouvel An chinois.
Tout
absolument.
À fait, oui.
Quels sont les plats incontournables qu'on va retrouver à table? Il y en a de nombreux. Il y a une volaille entière.
Il y a une volaille entière, tout à fait. Aussi du poisson, aussi entier, des nouilles sautées.
Alors là, vous nous avez apporté des raviolis. Vous les appelez comment, ceux-ci?
Les xiaozi.
Alors racontez-nous ce qu'il y a dedans et comment c'est fait.
Donc, l'enveloppe, tout simplement de farine de blé.
Oui.
Et à l'intérieur, une farce à base de viande, porc en général. Mélangé avec
le porc est très très présent dans la cuisine chinoise.
Très présent, oui. Donc avec de la ciboulette chinoise et des légumes verts. Généralement là, en l'occurrence, j'ai mis du choy soum. Donc après, ça peut être des épinards, ça peut être du chou chinois, ça peut être du chou blanc, ça peut être le légume qu'on veut en fait.
Combien de temps de cuisson pour une recette comme celle-ci?
Alors, en cuisson, je le fais pas avec un temps bien précis. En fin de compte, pour cuire ce ravioli, à l'ébullition, je plonge les raviolis. À la réébullition, j'attends 10 à 20 secondes. Je rajoute un verre d'eau froide, deuxième réébullition, 20 secondes, un petit verre d'eau froide, et à la troisième réébullition, en fait, on les retire et puis on les déguste.
Mais il faut de la quantité, parce que moi j'ai des amis chinois et je sais qu'ils sont en train de continuellement faire à manger quand on est à table. Hein. Ils ont toujours peur qu'on manque de quelque chose.
Il y a une spécificité, c'est qu'il n'y a pas le séquençage comme chez nous, il n'y a pas entrée, plat. Tout vient en même temps.
Tout vient en même temps.
Sur une table normalement ronde avec un centre de table qui tourne. Et on fait tourner, on ramène devant soi ce qu'on a envie de prendre. Et chacun partage tout, c'est très convivial.
Tout à fait.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de symboles dans la cuisine chinoise. Et le Nouvel An, c'est vraiment l'événement le plus important du calendrier chinois en cuisine, on pourrait dire.
Hein, c'est effectivement très important. C'est célébré entre le 21 janvier et le 20 février, lors de ce qu'on appelle la deuxième lune depuis le solstice d'hiver. Faut calculer, faut avoir un bon calendrier. Alors c'est donc 16 jours de festivités qui se terminent par la fête des lanternes.
Par la fête des lanternes, tout à fait.
C'est ça, ce qu'on appelle aussi la fête du printemps. Et c'est pour vous la fête majeure de l'année.
Oui, tout à fait.
Parce qu'on mange, mais aussi on danse, on fait la fête, il y a ces parades dans les rues.
On fait éclater les pétards, il y a le feu d'artifice.
Vous avez fait un livre sur les bao, Tai Liu, que j'adore. Les bao, on va expliquer à nos auditeurs s'ils ne connaissent pas. Ce sont ces petites brioches farcies, garnies et qu'on cuit à la vapeur. Il y a des soumai au porc aussi. Expliquez ce qu'est le soumai aussi. Alors, ça, c'est magnifique, ça.
Les fameux soumai, c'est ce qu'on appelle couramment... j'ai toujours entendu dire ici, on appelle ça les bouchons. Ouais. Donc, ce sont une petite enveloppe à base de farine de blé, pareil. Une farce à base de porc, souvent associée à de la crevette. Tout ça pétrit pour obtenir une espèce de texture assez pâteuse et collante qu'on farcit avec cette enveloppe à base de farine.
Qu'est-ce qu'on a là dans l'autre bol?
Du tendyang. Ça va avec mon accent français, c'est un petit peu...
Ah bon, ça va, moi je le prends l'accent. Hein.
Ouais. Donc du tendyang, enveloppe à base de farine de riz gluant, farcie de pâte de graines de sésame noires, sucrée et avec de la matière grasse. Pour l'occasion, j'ai fait avec du beurre, mais normalement, à la base, c'est avec du lard.
Mais vous considérez ça comme une entrée, comme un dessert?
Comme un dessert.
Ah, c'est
comme
un dessert. Voilà, c'est pour ça que je viens.
Là, oui, qui ont consommé plutôt pour la fête des lanternes.
Mais c'est vrai que ça peut être trompeur, parce que si on revient au bao dont on parlait tout à l'heure, ces brioches chinoises avec cette pâte très, très addictive, il y a un petit peu de sucre dans la pâte du bao.
Il y a du sucre. Toujours pareil. C'est vrai que dans la cuisine chinoise, le sucre est constamment présent. Toujours pour contrebalancer.
Porc au caramel.
Voilà, porc au caramel.
Canard laqué.
Même pour les plats salés. En tous les cas, dans la cuisine chinoise, le sucre est là pour apporter une petite balance.
Ça amène une rondeur, une douceur. Et c'est vrai que le sucre utilisé à bon escient sur le salé, c'est aussi un exhausteur de goût. Voilà, qui est beaucoup plus profond après sur les saveurs.
Alors restez avec nous, chers auditeurs. On va revenir dans un instant avec plein d'astuces pour réaliser un menu chinois à la maison. On va vous parler du matériel et puis des ingrédients indispensables pour cuisiner chinois. Mais avant, c'est l'heure d'écouter notre bruit de cuisine. Alors la semaine dernière, c'était un festival puisque nous avons offert deux caves Climadif. Eh bien, en revoici une troisième à nouveau à gagner. Une cave à vin d'une capacité de 18 bouteilles de la marque française Climadif. Écoutons donc ce nouveau bruit de cuisine. Ah, mes camarades ne le connaissent pas. De quoi s'agit-il? Allez, je vous mets sur la piste en vous disant qu'il s'agit d'un bruit de saison. Appelez le 3921, 50 centimes la minute, ou vous laissez vos coordonnées aussi sur europe1.fr. Et on vous rappelle
Europe 1, la table des bons vivants, Laurent Mariotte.
Nous voilà de retour à table, effectivement, avec Yves Candebord, Olivier Pouls, c'est notre invité Tai Liu, qui a commis de très beaux livres hein, pour se décomplexer avec la cuisine chinoise et asiatique en général. Il y en a un qui s'appelle Bao, qui est paru chez Larousse, et puis l'autre, ça s'appelle Le Riz Jaune, paru chez Larousse. Et Le Riz Jaune, c'est votre pseudonyme, hein, c'est votre nom sur YouTube, par exemple,
Tai. Tout à fait, oui, sur tous les réseaux, sur toutes les plateformes, c'est vrai que Le Riz Jaune est mon pseudonyme.
Est-ce que vous tentez des recettes de cuisine chinoise à la maison, tiens, Yves, Olivier.
Des choses assez faciles. C'est vrai que j'ai une petite série de produits. J'ai toujours sous la main de la sauce soja. J'ai du gingembre. Et c'est vrai que ça peut m'arriver de faire sauter des nouilles chinoises, par exemple, avec des restes de viande. C'est pas très compliqué en fait. Suffit d'aller puiser après dans quelques saveurs, quelques épices. Et puis, mais après, ça devient, si on veut faire des choses compliquées, c'est autrement plus technique.
C'est assez technique, Yves.
Alors pour être honnête, non, non, non. À la maison, je veux pas du tout de cuisine chinoise. Je m'applique à faire ma petite cuisine française.
Et vous allez au restaurant pour la déguster.
Je vais au restaurant et j'adore ça. Et j'ai la chance de connaître une adresse à Paris dans le 5e arrondissement, l'Empire Céleste, où je vais régulièrement, pratiquement tous les dimanches soirs, manger des raviolis de bœuf. Quand c'est bien fait, c'est tellement profond, c'est tellement savoureux. Et ce que j'adore dans cette cuisine, c'est pratiquement cette texture qu'on ne retrouve pas du tout dans la cuisine française, le côté un peu gluant.
Hein. Ce côté soyeux, il y a du liant.
Hein, y a du liant,
oui, c'est vrai.
Et que j'aime et que je ne retrouve que dans la cuisine chinoise.
Alors, on a l'image d'une cuisine longue et fastidieuse. Hein, parfois, c'est pour ça qu'on aime la déguster au restaurant. Et on va vous donner d'autres adresses de belles tables chinoises dans un instant. Pour les dim sum, par exemple, ces belles bouchées, ces beaux raviolis vapeur, il faut un sacré tour de main, Tai Liu.
Il faut un sacré tour de main, peut-être pas. Il faut juste voir comment on procède. C'est-à-dire que si vous prenez le temps de montrer le processus, surtout pour le pliage en fait, la confection de la pâte et le pliage. C'est vrai qu'au premier abord, ça peut paraître très fastidieux, mais si on vous montre tout doucement comment on fait les pliages.
Vous faites des tutos, vous montrez ça.
Voilà, justement. Hein, ouais. J'essaie un petit peu de rendre accessible en fait.
Il faut prendre le temps en fait, c'est ce que vous dites.
Toujours prendre le temps.
Jamais
se presser.
Faut pas se précipiter. Oui.
Exactement. Et si on le rate une fois, la fois suivante, on sait pourquoi on a raté, donc on rectifie et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, on a le tour de main.
Ouais, c'est comme tout, c'est un apprentissage. Il faut oser. N'ayons pas peur de cuisiner. Alors la cuisine chinoise, parce que la première fois, ça peut être un peu décevant. Mais la seconde fois, ce sera mieux. La troisième fois, encore mieux. Et on arrivera à un moment donné à avoir cette sensibilité. Ce qu'on appelle, nous, Laurent, les artisans de la main, c'est l'intelligence de la main.
C'est ça.
C'est la répétition du geste de la main. Personne ne peut arriver à le faire comme ça, en claquant des doigts.
Tout à fait.
Il faut un peu de patience et de la délicatesse.
Et pour l'équipement, un petit mot, Tai Liu, sur les essentiels, les indispensables à avoir à la maison. On pense évidemment au panier bambou. Hein. On parlait de la cuisson et de la cuisine vapeur la semaine dernière à cette table. C'est un essentiel, ça vous diriez ?
Tout à fait. C'est vrai que pour les dim sum, un panier vapeur, c'est vraiment le matériel à avoir pour pouvoir avoir une cuisson.
Si on a un cuivre vapeur, ça marche aussi.
Et le wok pour avoir ses cuissons vives et saines, hein, comme on aime les retrouver dans la cuisine chinoise.
Tout à fait.
Ça marche bien parce que on parle beaucoup d'économie d'énergie en ce moment. Le wok, il permet d'avoir cette économie d'énergie parce que c'est une cuisson très rapide.
Très rapide. Mais le seul souci, c'est que on a un wok, mais on n'a pas un feu adéquat à la maison. Mmh. Avec la gazinière ou la...
Il faut la mettre plein pot, hein, tout simplement.
Oui, ouais.
Parmi les indispensables du placard dans la cuisine chinoise, on pense souvent à la sauce soja qui permet de donner tout de suite une note asiatique à nos recettes. Alors attention, il y a sauce soja et sauce soja, elles ne se valent pas toutes.
Non, elles ne se valent pas toutes. C'est vrai que cela dépend du temps de fermentation, la qualité des grains de soja utilisés pour faire cette sauce.
Ah mais c'est comme le vin, moi j'ai fait des dégustations de sauce soja, on n'a pas idée du monde que c'est la sauce soja, entre la sauce soja industrielle qu'on trouve chez nous et les meilleures sauces soja qu'on peut trouver dans des épiceries asiatiques et qui valent assez cher, mais c'est pas le même produit. Hein.
Quels sont les autres essentiels en ingrédients, vous diriez,
donc,
à avoir
hein. Hormis la sauce soja, c'est vrai que la sauce huître,
oui.
C'est une sauce indispensable.
Qu'est-ce qu'elle apporte, vous diriez ?
Elle apporte un petit peu le côté salé. Le côté sucré, elle va compléter la sauce, en fait, pour harmoniser le tout, le goût du plat.
Sauce soja, sauce huître.
Sauce huître.
Huile de sésame.
L'incontournable, l'huile de sésame aussi, que je conseillerais plutôt de le mettre en fin de cuisson.
Oui, faut pas trop la chauffer, oui.
Exactement, pour avoir tout son arôme à la fin du plat.
Alors là, vous avez fait des nouilles sautées, qui est un plat qu'on retrouve hein, au menu et à la carte du Nouvel An chinois.
Tout à fait.
Racontez-nous, tiens, en quelques mots, alors, ce plat, le choix des nouilles déjà.
Le choix des nouilles, alors il faut que ce soit des nouilles très très longues.
Oui, c'est le cas. Hein.
Donc, il faut quand vous le mangez, faut les slurper.
Pour quelle raison? Pour que ce soit longueur.
Disons que ça symbolise la longévité. Donc, si jamais vous le croquez, vous le cassez.
Ah, il faut pas.
Vous ne profiterez jamais de la nouvelle réforme des retraites.
Ça sent l'infarctus. Oui, vous allez vivre longtemps, Olivier Pouls. Hein. Parce qu'il a commencé à aspirer la nouille vers 11h et il a pas terminé. Je peux vous dire que ça sent le centenaire. c'est vrai que. Cette recette, elle est géniale parce que elle fait tout de suite voyager. Donc, il y a les nouilles qui sont cuites à l'eau.
À l'eau, tout à fait.
Et ensuite, pour l'assaisonnement?
La plupart du temps, on a tendance à vouloir assaisonner au fur et à mesure pendant qu'on fait les nouilles sautées. Le mieux, c'est de préparer un petit bol avec toutes les sauces que l'on va mettre dans les nouilles. Et ensuite, on fait revenir les nouilles, les légumes ou la viande à la poêle ou au wok et on verse la sauce dessus. Ça permet d'avoir une homogénéité, des sauces.
Alors, vous nous parlerez tout à l'heure, Olivier, de l'expansion extraordinaire des vins chinois. Mais en attendant, quel vin français tient pour agrémenter la cuisine chinoise et notamment ce plat de nouilles sautées avec de la viande revenue dans de l'huile de sésame, du soja et de la sauce huître?
Alors, en fait, c'est pas très facile d'accommoder les vins français et la cuisine chinoise. J'ai fait beaucoup d'essais. Et en fait, il faut prendre plat par plat. Il n'y a pas de vin universel qui fonctionne partout. Alors là, sur le cas de ce qu'on a, j'ai choisi un Beaujolais. J'ai choisi un vin qui soit pas trop puissant, qui est pas de tanin en tout cas, qui est du corps, parce que c'est quand même un moulin à vent, donc c'est parmi les crus du Beaujolais, c'est un vin qui a du répondant, mais en même temps qui puisse respecter toute cette ces épices, cette complexité de plat. Sinon, en règle générale, c'est plutôt des vins blancs avec parfois même un tout petit peu de sucre qui marche bien sur la cuisine chinoise.
Alors pour terminer, avant d'accueillir Michel Bernier et puis un beau plat du jour dans un instant à cette table, quelques adresses pour bien manger chinois en France que vous avez pratiqué, Olivier.
Il y a un plat dont on n'a pas parlé qui est le canard laqué, qui est, à mon avis, il faut goûter ça un jour dans sa vie, un grand canard laqué. C'est extraordinaire en 2 ou 3 services. À Bordeaux, il y a le Bonheur du Palais qui en fait un extraordinaire. À Paris, j'en connais deux. Il y a l'Imperial Treasure et il y a le Lili, qui est le restaurant chinois du Peninsula. Ça vaut un peu d'argent. Il faut compter une cinquantaine ou soixantaine d'euros par personne parce qu'on partage un canard laqué. Mais franchement, c'est une expérience incroyable.
Yves, une adresse?
Moi, je vous ai parlé tout à l'heure dans l'Empire Céleste, dans le 5e arrondissement, que moi je trouve merveilleux. Et il y a un très beau restaurant à Lourmarin. Alors que c'est plus une cuisine asiatique, c'est le Bambou Thai, là, qui fait une cuisine vraiment très pointue. Et Olivier, une carte des vins
absolument de folie. Incroyable.
Voilà, il y a toute la vallée du Rhône, parce que ça part du Chave, en passant par Rainon, les Rayas.
Pop, donnez pas trop l'adresse.
C'est vraiment c'est une petite merveille.
Le Bambou Thai à Lourmarin, on vous mettra les références sur europe1.fr. Et moi, je rajoute l'art du ravioli. Une belle adresse où on déguste des raviolis à vapeur avec de belles farces, par exemple, comme du porc et du chou chinois et de la ciboulette. C'est rue Homer, qui est dans le quartier originel chinois à Paris, dans le 3e arrondissement, qui est une rue vraiment consacrée à l'alimentation à la cuisine chinoise. Ça s'appelle l'art du ravioli et pour 12 euros, eh bien, on fait bonbance, comme on dit. Merci Tai Liu d'être venu à cette table.
Merci beaucoup.
On vous retrouve sur vos réseaux sociaux et dans vos livres parus chez Larousse, Bao et Le Riz Jaune.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Nous revoilà à table avec Yves Candebord et Olivier Pouls. Michel Bernier nous rejoint dans quelques minutes. Mais juste avant, tiens, j'ai envie de vous parler d'un ouvrage étonnant qu'on a reçu à la rédaction. Ça s'appelle l'Atlas Obscura de la gastronomie. Alors le sous-titre, il va vous parler tout de suite. Les 1000 plus grandes curiosités culinaires du monde. Et ça vient de paraître chez Marabout. Alors c'est vrai que c'est amusant parce que c'est un atlas imaginé par des Américains qui répertorie des anecdotes insolite, hein, on va dire, assaisonné d'histoire, de culture, de politique à travers le monde entier. Et ça offre un point de vue différent sur la cuisine et l'alimentation. Est-ce que vous avez, tiens Yves et Olivier, des anecdotes culinaires insolites rapportées d'un de vos nombreux voyages, vous qui faites des miles très régulièrement pour aller découvrir de beaux vignobles, Olivier?
On parlait de Chine tout à l'heure, je pense que c'est là que j'ai vécu mes aventures culinaires les plus improbables. Et je me souviens m'être fait embarquer un soir par un Chinois qui me dit « mais je vais vraiment te faire découvrir ce que nous on mange ». Il m'a emmené dans une petite ruelle de Shanghai, d'un quartier mais très très populaire. Et là, on a mangé une soupe de tripes de mouton et d'autres choses assez
singulières,
non identifiables. Bon, il voulait tester, il voulait voir si le petit Européen, le petit Français, et je l'ai mangé. C'était assez bon, c'était très 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 épicé. J'avais les tempes couvertes de sueur, mais c'était un moment magique.
Alors moi, à Paraty au Brésil, j'ai mangé du crocodile et c'était super intéressant. On est entre le poulet et la
le poisson.
Voilà, entre le poulet et la lotte. Et c'était une chair d'une délicatesse, d'une finesse. Et j'étais bluffé.
Oui, moi pareil, j'ai dégusté ça au Kenya, le crocodile, effectivement.
J'ai mangé des fourmis en Chine aussi.
Ah, comment vous les avez dégustées?
Eh bien, en fait, il y avait des tout petits trucs noirs. C'était mélangé des œufs de poisson. Et en fait, ça apporte beaucoup d'acidité. Hein, l'acide formique, d'ailleurs, est connu. C'est très acide.
Onoma à Copenhague, j'ai mangé deux fois. La première fois que j'ai mangé en amuse-bouche, c'était des fourmis vivantes.
Ah oui, ouais, c'est spécial. Ouais, hein.
C'est spécial. C'est spécial. Et ben alors, dans ce livre, il y a pas mal de choses spéciales aussi. Alors, j'ai découvert plein de petites histoires hein, qui font la grande histoire dans cet Atlas Obscura. Et ça me donne envie de jouer avec vous, chers auditeurs, et avec vous, Yves-Olivier. Je vous pose des questions sur des spécificités culinaires dans le monde. Et à vous de me donner la bonne réponse. Donc, jouez vous aussi à la maison ou en voiture. J'ai trois questions. La première, à l'époque victorienne, l'Angleterre voit fleurir de nombreux ustensiles de service très spécialisés, notamment une tasse créée par Harvey Adams pour rendre le tea time plus pratique. Quelle est la spécificité de cette tasse ? Première proposition, un rebord pour protéger la moustache des hommes. Deuxième proposition, des anses avec des encoches pour chaque doigt. Ou alors un emplacement à bougie pour garder l'eau chaude. Qu'est-ce que vous diriez?
Je crois que c'est l'histoire de moustache, moi, je dirais.
Je dirais l'emplacement à bougie, moi.
Emplacement à bougie pour garder l'eau chaude.
Ouais, pour garder l'eau chaude.
Et vous dites le rebord pour protéger la moustache des hommes. C'est la bonne réponse, effectivement, parce que les moustaches perdaient allure, confrontées à une tasse de thé brûlante, et elles voyaient fondre la pommade et la cire. Parce qu'on mettait de la pommade et de la cire pour bien tenir la moustache. Donc Harvey Adams, qui était potier, il a fait breveter en 1870 une tasse avec un protège-moustache.
Parce que vous n'avez pas de moustache, mon cher.
Ben oui, on peut pas comprendre. Désolé. Vous non plus, je vous signale. Un rebord en forme d'aile pour éviter tout contact entre le liquide et les poils. Deuxième question. À Saint-Vitch, en Belgique, se trouve une collection d'exceptions. De quoi s'agit-il, vous le Belge? Alors, est-ce que c'est un conservatoire de la frite belge? Réponse B, la plus grande collection de bocs au monde, hein, les dessous de verre à bière, les bocs. Et réponse C, une collection internationale de levain. Alors,
Moi, j'irai sur les bocs.
Eh bien, c'est pas idiot en Belgique, évidemment, la bière, mais l'idée du levain me plaît assez parce que c'est, je pense qu'on en utilise beaucoup, on en a utilisé beaucoup pour la bière et pour la boulangerie, etc. Ça m'amuse assez, le levain.
À Saint-Vith, en Belgique, se trouve une collection, effectivement, internationale de levain. Bonne réponse, Olivier. Et c'est au centre de recherche de la Confédération belge de la boulangerie-pâtisserie que se trouve une bibliothèque avec plus de 107 échantillons de levain venant du monde entier. Et il y en a même un qui vient des chercheurs d'or du Yukon qui utilisaient ce mélange pour préparer des pains et des galettes à l'attention des mineurs affamés. C'est vrai que c'est vivant, le levain.
Et il faut le rafraîchir tout le temps, sinon ça meurt.
Et à l'heure des levures industrielles, eh ben c'est bien qu'on préserve la biodiversité de nos levains.
Alors, il faut le dire aussi, le levain, parce que moi j'ai un levain à la maison. Quand je pars en vacances, je le mets au congélateur.
Et il redémarre.
Et quand je rentre, il redémarre. Voilà.
Dernière question, les amis. En pleine bataille navale en 1841, le contre-amiral de marine uruguayen John Ashko se trouve à court de boulets de canon. Par quoi va-t-il les remplacer? Un, des bouteilles de vin. Deux, des pastèques. Trois, du fromage.
Bouteille de vin, c'est quand même dommage.
Oui.
Pastèque, je ne pense pas, parce que sur un bateau, les conserver, c'est compliqué. Je dirais fromage.
Eh ben, c'est ça. Il écoule sa réserve de fromage qui se trouvait dans les cales. Et les fromages étaient si durs que le contre-amiral décida de charger les canons avec de l'édame. Et il remporta la bataille navale.
C'est parce que Laurent, il devait avoir de l'argigachna, qui est un fromage quand même qui est solide.
Mais là, c'était de l'édame, du costaud.
Heureusement que c'était pas du Bria Savard, hein, parce que là, on aurait rigolé.
C'est ça. Ça finit en tarté. Voilà. Ça s'appelle l'Atlas Obscura de la gastronomie. On voulait vous faire profiter de quelques petites perles insolites. Un mot sur Des Bras pour nos restos. Vous le savez, notre grande opération Des Bras pour nos restos en 2023 se poursuit. Nous sommes toujours mobilisés. De nombreuses annonces vous attendent sur notre carte interactive sur europe1.fr. Le principe est très simple. Vous êtes restaurateur, vous manquez de bras en cuisine ou en salle, vous postez votre annonce et on fait le lien évidemment avec vous qui recherchez du travail dans la profession. Yves, il y a Rebecca Beaufour d'ailleurs, chef de cuisine au restaurant Dante, qui cherche du monde à Paris.
Qui cherche du monde, elle cherche un demi-chef de partie pour la cuisine et un chef de rang en salle. Et elle a déposé l'annonce, et c'est vrai que c'est une jolie petite maison avec un vrai esprit.
Eh bien, on prend cette belle adresse. Rebecca Beaufour à Dante, à Paris, dans le 10e. Olivier, une autre adresse aussi,
Oui, peut-être
je crois.
Pour Yves, d'ailleurs, en tant que semi-retraité, hein, dans l'Hérault, le château de Lunas, cherche un chef. Alors, si vous voulez redémarrer, c'est un beau château du 17e siècle, quand même, hein, qui surplombe le Graveson et qui a son propre potager, son four à bois. Franchement, Yves, allez-y, hein, l'offre est sur europa.fr.
Je pense que c'est une très très belle offre, parce que je connais le lieu, c'est un lieu magnifique. Mais Olivier, je vais quand même peut-être penser à faire une table d'hôte à la maison.
Eh ben, c'est ça, ça sent ça à mon avis. Vous retrouverez bien entendu toutes ces références sur europe1.fr. C'est l'heure de jouer avec nos bruits de cuisine. Europe 1 vous offre une cave à vin de marque française Climadif. 18 bouteilles, hein, elle est idéale pour mettre à parfaite température de dégustation vos bouteilles. Et on accueille notre premier auditeur qui s'appelle Yves, comme vous. Bonjour Yves.
Bonjour Laurent et bonjour à votre savoureuse équipe des bons vivants.
Merci. Bonjour.
Vous savourez à chaque fois de superbes saveurs. Alors, ah,
ça nous fait plaisir. Eh bien, on prend l'adjectif et le compliment, Yves. On écoute le bruit de cuisine. Je le redis, c'est un bruit de saison. Écoutez bien. Alors.
Je pense qu'on est en train de gratter une huître.
Ah, on est en train de gratter une huître. Réécoutons, tiens.
On la nettoie.
Ah oui, j'entends ce que vous voulez dire. Mais non, c'est pas l'huître. Il n'y a pas d'huître dans l'histoire, mais on vous envoie l'Atlas Obscura de la gastronomie, justement, pour vous, Yves, qui nous écoutez du côté de Troyes, je crois. Hein.
Oui, c'est ça.
Merci d'avoir joué avec nous, Yves. Et bon samedi.
Merci à vous.
Bon samedi sur
Bonne
Europe 1.
Émission.
C'est l'heure d'accueillir notre invitée, humoriste, comédienne. Elle appartient, vous savez, à ces actrices populaires qui font partie de la famille. Ça fait plus de 40 ans que ça dure. En ce moment, elle triomphe au Théâtre des Variétés à Paris dans une pièce de Laurent Ruquier. Je préfère qu'on reste ensemble. C'est le titre de la pièce et c'est ce qu'on va lui dire parce qu'on est heureux de l'accueillir jusqu'à midi et demi. Bonjour Michel Bernier.
Hey, bonjour, bonjour tout le monde.
Bonjour. Comment ça va?
Bah, alors moi, rien que de savoir que je venais manger avec vous, ça me réjouissait.
Vous avez votre ronde serviette, hein. C'est plaisir de vous accueillir ici.
Merci.
On avait fait la table du dimanche l'année dernière ensemble.
Absolument.
Et c'est vrai que je suis ravi de vous accueillir à cette table. Je suis venu vous voir au Théâtre des Variétés il y a quelques jours pour la 100e. Et quel bonheur de vous voir sur scène. Vous êtes lumineuse, vous êtes solaire, vous êtes rayonnante. Non mais on sent que vous êtes heureuse d'être là. Et ça fait un bien.
C'est ma maison, hein, le théâtre, c'est ma maison. J'aime beaucoup cette complicité avec le public. Et puis faire rire quand on a cette possibilité-là. C'est un don, quoi, de la terre, du monde. Je sais pas, merci papa, merci maman.
Et puis merci Laurent Ruquier, parce que c'est une pièce efficace, bien écrite. Hein, on a l'habitude de voir le talent de Laurent Ruquier à l'œuvre au théâtre.
Et puis j'ai un partenaire de rêve, Olivier Citruc, pardon. Et donc vraiment, on se régale à jouer cette pièce. Ce couple qui se cherche, qui a peur d'être mangé par l'usure et qui lui essaye de lui faire accepter l'inacceptable,
c'est
en
ça.
Tout cas
des
pour moi dans la vie.
Des coups de canif dans le contrat, comme il dit. Accepte que je te trompe un petit peu.
Oui, hein, c'est pas grave puisque je t'aime. Donc voilà.
Vraie question.
J'essaie d'expliquer ça chez moi. Ça
marche rarement.
Hein, courage. Ouais. Courage.
Puis alors, les femmes, elles sont moins sur ces trucs-là quand même. Hein.
On est samedi matin, bientôt au midi. Qu'est-ce que vous faites habituellement le samedi matin, Michel
alors,
Bernier
Comme je joue deux fois le samedi après-midi, donc faut que ce soit un peu léger, parce que j'aime bien aussi manger un petit truc entre les deux représentations, pour mettre un peu d'essence dans le moteur, comme on dit. Généralement, j'aime bien le côté un peu brunch, des œufs coques avec des petites tartines, et puis un bon morceau de fromage, voilà.
Et quel est votre goût de la semaine, tiens?
Alors, qu'est-ce que j'ai mangé cette semaine qui m'a ravie? Dans la galerie où on est, là derrière le Théâtre des Variétés.
Passage des Panoramas.
Voilà, il y a un petit resto qui s'appelle le Coinsto. Qui est resto, bar, et en plus ils font du vin nature qui a tombé par terre.
C'est un très bel endroit.
Et c'est un très bel endroit, ils sont sympas comme tout, et ils font une super petite bouffe comme ça, hyper simple, bien parisienne, que moi j'adore, avec du bon pain, tout ça. Moi je suis pas une folle, je me cherche pas non plus midi à 14h, moi j'aime les bons produits. En fait la cuisine prétentieuse me gave un peu le côté...
Bon, on en revient tous un petit peu, hein, c'est ce qu'on dit régulièrement
bien sûr,
à cette table. Mmh. Et Passage des Panoramas, c'est bien de le citer,
ouais.
je l'adresse à nos amis qui viennent de province et de région.
Régalez-vous parce que c'est en plus c'est des vrais coins de Paris. Ce passage, il va de la rue du Faubourg Montmartre jusqu'au Grand Boulevard. Il y a plein de petits magasins rigolos.
Il y a
et
le Café
Ster,
il y a Racine.
Exactement, on n'est pas loin du musée Grévin, en face des variétés.
Il y a un vieil imprimeur magnifique.
Ah ouais, et puis si vous voulez des vieilles affiches, des vieux bouquins et tout, c'est vraiment un endroit de rêve.
Dans cette pièce au Théâtre des Variétés, lors d'une dispute avec Olivier Sitruk, vous dites « Ce qui m'inquiète quand même, c'est que si on ne travaille plus ensemble, qu'on ne fait plus l'amour ensemble, est-ce que ça vaut le coup de rester ensemble ? Juste pour manger ensemble ?»
Oui, c'est ça.
Et Valentin vous répond « Mais c'est important la table, on aime ça toi et moi, mes pâtes aux sardines, ton risotto ad hoc. » Et là vous acquiescez dans la pièce.
Ben, oui, parce que l'amour, bon, on a tous eu la chance, j'espère en tout cas, de vivre des belles histoires avec la sensualité, mais je pense que la complicité de la table est quelque chose d'important. Le partage, c'est ce qui est le plus joli dans la vie et à deux ou à quatre ou à douze. Mais en tout cas, dans un couple, je pense que quand on s'entend bien à table, ça fait partie aussi de la sensualité et des échanges. Quelqu'un, être avec quelqu'un qui n'aime pas manger, alors que soi-même on aime bien manger, ça doit être un peu bizarre et je pense que ça doit déséquilibrer un peu le couple. Et que quand on commence à être un peu tatillon sur tout ce qu'on mange, ben si l'autre ne l'est pas,
et cuisiner pour quelqu'un qu'on aime.
Mais c'est merveilleux et manger la cuisine de quelqu'un qu'on aime, c'est encore mieux.
C'est absolument. Et ben tiens, c'est en beau. Cuisine comme c'est en beau. Amour, il y a aussi des plats qui s'usent et puis on y revient, on les retrouve, on retrouve ce goût. Et vous avez envie de nous parler à ce propos de la fameuse salade de chèvre chaud, Yves Condebord.
C'est vrai. Oui.
Hein. Où avez-vous trouvé ça ?
Non mais c'est 1980, j'arrive à Paris. Avec un portefeuille quand même qui était très très serré, et je découvre la fameuse salade de crottin de chavignol chaud.
Bah ouais. C'est le truc qu'on a tous dégusté parce que ça coûtait pas cher.
Ça coûtait pas cher.
C'était rassasiant.
C'était pratiquement un plat complet et surtout c'était très très bon. Je m'en suis régalé, mais j'en ai mangé pratiquement à tous les repas. Je mangeais cette fameuse salade.
Elle revient aujourd'hui alors.
C'est la magie un peu aussi des tendances et des modes de faire ressortir du placard ces vieilles recettes. On pourrait prendre la saucisse purée, on pourrait prendre le pâté croûte. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit maintenant dans les néo-bistrots, dans les brasseries, voir réapparaître avec l'AOP crottin de chavignol, la fameuse salade de chèvre chaud.
Alors à quoi elle ressemble la recette que vous aimez vous ?
La classique, c'est assez simple en fin de compte. C'est un pain toasté, on coupe son crottin de chavignol en deux. Avant, on va le faire mariner un peu dans de l'huile d'olive avec un peu de thym, un peu de romarin. Mmh. J'adore les baies roses.
Ah oui.
Parce que c'est là, je pense que je les utilise le plus souvent, bien marinées. Je pose sur mon pain. On va passer ça au four 120 degrés jusqu'à que le fromage coule. Il n'y a pas tellement de temps. Faut attendre de voir le fromage qui va couler et le déposer, surtout en ce moment, sur une belle salade frisée, voilà, avec le cœur bien blanc, bien moutardé. Et on a une jolie petite salade.
Vous mettez pas de miel? Il y en a pas mal qui mettent du miel.
Alors, 1990, première carte de la régalade.
Eh oui, son restaurant.
Voilà. Ouais. En 1990, j'ai fait une salade de chèvre chaud, un peu revisitée, on va dire. Je prenais de la pâte philo. Ouais, excusez-moi, de la pâte philo, que je tartinais un peu de miel. Voilà. Et j'enrobais mon fromage qui avait été mariné de la même façon, que de façon classique. Je mettais ça au four. Quand ma pâte philo prenait cette belle couleur.
Dorée.
Avec qui commençait un peu aussi
à flétrir
et surtout à luire parce qu'avait le miel, comme elle était tartinée de miel, voilà, oui. elle prenait une luminosité assez incroyable. Et je la posais dans une assiette et j'accompagnais avec du fenouil râpé très très finement, de la salade frisée et un peu de basilic.
C'était un peu comme une aumônière de chèvre, cette histoire.
Exactement. Ça ressemble à ça. Hein,
mais ouais. Laurent, les aumônières ont disparu. En 80, dans toutes les cartes de restaurant, il y avait une aumônière toujours.
Il n'y en a plus. Voilà. on n'en voit plus de ça.
Ça
par contre, alors, sur le miel, bon. Moi j'ai un problème avec ça, c'est que je pense qu'il y a effectivement des jolies recettes, comme vous expliquez, et puis après, tout le monde se met à mettre du miel
partout,
tout le temps. C'est comme le truc balsamique là, sur le bord des assiettes. On n'en peut plus de ça.
On
en a marre de ça. En plus, je suppose que vous mettez du bon miel, mais les trois quarts du temps, ils nous mettent du miel qu'on ne sait pas d'où ça vient. Je pense qu'il y a
le lune de miel.
Voilà, une abeille, c'est même pas de quoi.
Sirop glucose.
C'est comme tout avec modération. Mais pour dire que tous ces plats qui nous ont émerveillés et on s'en est lassés, ils ont disparu un jour ou l'autre. Ils refont surface.
Oui.
Et
on a c'est comme l'amour, ça revient.
Ça revient. Et
c'est
on a
beau.
Tout le temps ce plaisir de le déguster.
Et ben,
c'est les valeurs sûres.
Et ben, oui. Redécouvrons ce week-end la salade de chèvre chaud grâce à Yves Condebord. Michel Bernier est avec nous jusqu'à midi et demi. Et on a un beau plat du jour pour vous. Et on a un des plus grands chefs de la capitale qui se déplace et qui sera là dans un instant pour vous faire ce plat.
Oh, je salive.
Allez, on envoie le bar à la deux, les gars.
Et le brochette de bœuf, un tartare et une tripe.
Pour flamber, il faut pencher. Voilà, pour que ça flambe, voilà.
Europe 1.
Hop, hop, assaisonnement, hop, on enlève.
11h, midi 30, la table des bons vivants.
Allez,
Laurent Mariotte.
Bon samedi midi à table avec nous. Bienvenue hein, si vous arrivez. Merci d'être des nôtres si vous êtes là depuis 11h. Dans tous les cas, je préfère qu'on reste ensemble, chers auditeurs.
Mais oui.
Et c'est ce que dit Michel Bernier actuellement sur la scène du Théâtre des Variétés, un des plus beaux théâtres en plus parisiens. Une très belle pièce de Laurent Ruquier où on rit. Et ça fait du bien parce que votre personnage, Claudine, qui est à coquiner à son Valentin, elle y va de la punchline hein, quand même. Elle ne se laisse pas faire. Hein.
Non, on pourrait croire au début qu'elle est un peu soumise et tout ça, et puis en fait
non,
pas du tout, elle arrive à retourner la situation et c'est lui qui se retrouve un petit peu embêté après,
comme d'habitude, comme
voilà.
D'habitude
hein.
Vous, la fille du professeur Choron, oui, qu'on adorait, est-ce que dans la vie vous avez justement toujours cette arme de l'humour pas loin pour pouvoir vous sortir de situations un petit peu compliquées parfois dans la vie de tous les jours?
Ben, j'ai été élevée comme ça, donc je pense que c'est l'arme essentielle en fait, celle de l'humour, c'est la meilleure d'abord des défenses, je trouve. Et puis, bah, ça permet de relativiser certaines fois les choses et de rien n'est sacralisé. Et puis voilà, quoi, il vaut mieux voir les choses sous ce prisme-là plutôt que sur le prisme de la dépression.
On peut rire de tout, hein, c'est votre papa qui le disait.
On peut rire
aussi,
de
hein.
tout, et il faut surtout pas s'empêcher. Et comme je dis toujours, c'est à nous de faire le choix de ce dont on a envie de rire ou pas. Mais qui déciderait demain de ce qui est drôle ou pas? Et comme je dis, dans les dictatures, il n'y a pas d'humoriste.
Puis surtout, on a un peu besoin de rire en ce moment quand même.
On a besoin de rire tout le temps. Et d'ailleurs, on le voit bien, ce sont les comédies qui cartonnent, ce sont les pièces de théâtre, les one-man shows. Les gens ont besoin de s'amuser, c'est un exutoire l'humour, ça fait un bien fou.
Votre pièce, elle est gaie, elle est légère, il y a en plus des petites touches de karaoké, donc il y a un côté très interactif aussi qui fait beaucoup de bien.
Il y a beaucoup de chansons et comme tout le monde sait que je suis passionné de variété, donc voilà.
Ah bah vous éclatez hein.
Ah bah j'adore.
Et votre papa faisait rire, mais il faisait bien la cuisine aussi.
Très bien, hein, mais j'avais deux parents cordon bleu, vraiment.
C'est ça, hein, bien
oui.
élevé. Hein.
Ouais, très très bien élevé. Mais alors, comme j'étais un peu... je suis fille unique et considérée comme une princesse plutôt que comme une enfant, normale, en fait, ils ne m'ont pas appris grand-chose parce que c'était... moi, je les regardais faire et presque... non, on va pas t'obliger, on va pas t'apprendre ça. Voilà.
Il faisait des nems, votre papa.
Papa, il faisait des nems et il a fait la guerre d'Indochine et il est revenu avec les saveurs et les papilles enivrées de cette cuisine vietnamienne absolument extraordinaire et il a appris à la faire. Quand il était là en France, enfin à Paris au tout début, il n'y avait pas d'épicerie asiatique, il n'y avait rien et il avait trouvé un petit endroit derrière la gare de Lyon et il me racontait qu'en fait il était en manque de gnoc mam, c'était vraiment imprégné quoi. Et quand il a trouvé cette petite épicerie, il est devenu fou. Et après, c'était la chasse à trouver un petit resto pour pouvoir manger cette cuisine. Et il a appris à la faire. Voilà.
À propos de vos goûts, Michel Bernier, on s'est renseigné. Il paraît que vous avez un goût immodéré pour la pomme de terre.
C'est terrible.
C'est pas terrible.
Mais j'adore les pommes de terre. D'abord, c'est vrai que moi, du côté de l'est de la France, c'était les origines de mon papa. Et moi, j'allais beaucoup en vacances chez ma grand-mère. Petite, elle était garde-barrière. Bah, comme tous les gens qui ont pas beaucoup de sous, on fait avec ce qu'on a et souvent extrêmement bon. Et ma grand-mère, quand elle tuait une poule ou un poulet, bah, elle récupérait la graisse de poule et elle faisait retirer ses petites pommes de terre dans la graisse de poule. Et moi, j'ai un souvenir. De ça, mais...
Oh là là, et ben le plat du jour, il est pas loin de ça. Je vous présente Bruno Doucet. Je vous le présentais comme
enchanté.
Un des plus grands
Bonjour
chefs
Michel,
de la capitale. Et je réitère le propos parce que
Merci,
Bruno est né à Tours. Il est passé par de grandes maisons.
Ah,
hein,
ouais.
Charles Barrier, Jean-Pierre Vigato,
oh là là, mais
Pierre
que
Gagnère.
C'est
et qu'est-ce que c'est? Il va vous dire ce que c'est. Vous êtes
pas
aujourd'hui à la tête de la Régalade.
Tout à fait.
L'ancien restaurant où est née la bistronomie d'Yves Condebord. Et vous avez repris aussi le comptoir du relais Saint-Germain.
Tout à fait.
À Saint-Germain-des-Prés. des prés au carrefour de l'Odéon. Donc vous êtes dans la filiation, dans la lignée, c'est pas la filiation, dans la fraternité.
Filiation, non, parce que.
Non, vous avez l'image.
Dans l'amitié. Yves n'est pas si vieux, quand même.
La figure officielle.
Ceci dit, c'est pas rare qu'au comptoir de l'Odéon me prenne pour Yves. Encore.
Qu'est-ce que vous nous avez fait de beau autour de la pomme de terre?
On m'a dit, Michel aime beaucoup les pommes de terre. Donc j'ai dit, je vais faire une tartiflette, un peu revisitée, certes, parce que elle est pas faite avec du reblochon, mais elle est faite avec du Beaufort. J'ai mis un peu de jambon blanc dedans.
C'est merveilleux.
J'ai mis pommes de terre Binch qui sont juste sautées.
Et sautées dans quoi? Parce qu'un peu comme la grand-mère.
J'ai pas mis de graisse d'oie, je suis désolé, ou de graisse de poule. J'ai juste pris un tout petit peu d'huile d'olive et je les ai finies avec un tout petit peu de beurre. Voilà. On a mis des oignons de Roscoff qu'on a fait cuire ensemble et puis après on a fait un montage.
Qu'est-ce qu'ils ont bien fait ces oignons de renaître à Roscoff, franchement.
Parce que le climat leur va très bien, effectivement. Ouais.
Et puis il y a une douceur, il y a une douceur qui est super agréable, voilà. D'ailleurs, on fait une carbonara au comptoir et à la riade, qui est une recette filière, comme ça qu'on dit, que il faisait et que j'ai continué à faire.
Il vous a laissé des recettes alors? Raconte, c'est le moment de lui dire s'il y a des choses qu'il faut redonne.
J'ai pas laissé de recettes parce que je pense que Bruno était déjà un immense cuisinier. J'ai surtout beaucoup de fierté et au fond de moi, voilà, d'honneur d'avoir transmis cet établissement qui m'est cher parce que j'ai passé 20 années à Bruno et qu'il a repris de façon très simple en finalité, qui a juste repris la même philosophie. Et c'est vrai que quand on quitte une maison et que c'est un cuisinier comme Bruno qui reprend derrière, c'est un vrai bonheur pour moi d'avoir pu transmettre ça à Bruno.
Et vous ne vous êtes pas trompé, je suis venu l'autre jour dîner justement au comptoir du Relais Saint-Germain et on retrouve ce qui était cher à Yves Condebord et vous avez effectivement la même qualité, cette cuisine du sentiment, une cuisine de vie comme dit Yves.
Ouais, en fait la cuisine c'est ma grand-mère, mon père qui me l'a appris. Yves c'est pareil, on cuisine comme on aime, on cuisine comme on le sent, on a des bons produits, on les cuisine simplement. Et l'objectif, c'est de faire plaisir aux gens qui viennent manger chez nous.
Voilà, faire plaisir aux gens.
Mais comme vous dites,
ça vous fait plaisir, Michel?
Mais tellement.
Et pour ce que vous disiez tout à l'heure, vous dites aujourd'hui, on a besoin d'aller voir les one man shows, les choses. Et en fait, nous, on s'aperçoit que nos restaurants aujourd'hui sont complets parce que les gens ont tellement besoin de ça. On est réconfortant, je pense, aujourd'hui.
Mais c'est la même chose. Réconfortant. De toute façon, on sait très bien que la nourriture, c'est un moment où, évidemment, quand on va pas très bien, on rêve pas d'un truc pas bon, hein. D'un truc qui nous fait du bien, qui nous redonne de l'humeur, quoi.
Voilà. Et si on veut refaire cette recette de tartiflette, alors justement, les grandes étapes, les pommes de terre revenues.
Pommes de terre Binch, juste blanchies une fois et après revenues, ça permet d'avoir une meilleure coloration et elles cuisent mieux après.
Ouais.
Et puis après, des oignons de Roscoff qu'on a fait fondre avec une petite gousse d'ail.
Oh là là.
Et puis après, on fait un montage tout simple. Visiblement, ça a l'air de plaire à Yves.
Oh là là. Yves, il a
de franchement. La deuxième assiette.
J'ai juste mis dessous. J'ai de la junkele, la joue de bœuf, la joue de porc, qui est pas italienne, elle est française, elle vient d'Anjou, c'est des petits jeunes qui font ça en Anjou. J'ai juste chemisé mon plat comme ça, et après pommes de terre, un petit peu d'oignon confit, et du Beaufort. Mais ça change un peu, et voilà.
Là, Laurent, pour moi, on a la définition parfaite de la bistronomie, c'est-à-dire qu'avec des produits du quotidien, avec un prix d'achat qui est totalement modéré, on a un grand plat qui amène une émotion fabuleuse.
Exactement.
Je le dis souvent, mais ce plaisir qu'on peut avoir de dégustation n'est rarement dû par rapport au prix d'achat.
Qu'est-ce qu'on boit avec ça, Olivier Pouls?
Alors là, je vous ai servi, parce qu'on parlait tout à l'heure de vin nature. Je sais que vous êtes tous des grands amateurs de vin nature. Vous en avez servi, hein, s'il vous plaît.
Mais il est bon, hein.
Et bien, il est digeste.
Et surtout, je suis allé le chercher en dehors de France. C'est un vin qui vient d'Autriche. C'est un Riesling autrichien qui s'appelle Rebelle Naturelle.
Vous voyez que vous êtes rebelle.
De la famille Chable. Et avec ce plat qui, comme vous le dites, est réconfortant, assez généreux, il faut un vin qui soit incisif, qui soit tranchant.
Avec une acidité
assez marquée pour venir casser le gras du fromage, du jambon. Et donc, trouver cet équilibre en bouche. Et je trouve que là, pour le coup, ça marche assez bien.
Surtout
que c'est un vin nature propre, comme j'aime à le dire, c'est-à-dire sans déviance aromatique.
Et voilà, Olivier Pouls se met au vin nature. D'ici la semaine prochaine, il sera peut-être devenu woke, on ne sait pas.
Ou vegan,
mais c'est Olivier Citruc qui est fan de vin nature, et c'est lui qui m'a fait découvrir le vin nature.
Votre
que je connaissais, moi, mon partenaire, et c'est un délice, quoi, parce qu'on boit ça tranquillement, et le lendemain, on est pas mal à l'air.
Il n'y a pas de sulfite.
Après, je reviens, Olivier, même si moi je suis un adepte total de vin nature, des vins nature avec des déviances, c'est des mauvais vins.
Ah ben, on est bien d'accord.
Il y en a
Et il y en a beaucoup, malheureusement. Mais
c'est comme tout aujourd'hui, dès l'instant. Oui. Quand c'est pas bon, c'est pas bon.
On peut manger de la piquette.
C'était très bon, cette tartiflette à la sauce Bruno de Laurent.
Il n'y a pas que moi qui t'abandonne pas.
Michel Bernier, il retourne. Non, non, mais on n'est pas là pour faire de la figuration ici, vous le savez.
On dit qu'on aime manger, voilà.
On le fait vraiment et on retrouvera la recette sur europe1.fr. Merci infiniment, Bruno. Et restez avec nous, tiens, jusqu'à midi et demi. Le service peut un petit peu attendre, il y a du monde en cuisine.
Ça commence pas avant 13h le samedi.
Non, mais ça va alors.
Eh ben, on est content de vous avoir avec nous. Et on joue, vous le savez, on vous offre une cave à vin Climadif. 18 bouteilles pour mettre à parfaite température de dégustation vos bouteilles de vin nature ou autre. Elle est ultra silencieuse. Et on accueille Laurent au téléphone. Bonjour Laurent.
Bonjour Laurent.
Comment ça va? Vous nous appelez d'où Laurent?
De Paris, 18e.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Je travaille pour des sociétés en prestation informatique, on va dire.
D'accord, bah ça peut nous aider, ça, parce qu'on n'est pas très fort.
Avec plaisir.
Et qu'est-ce qu'on mange chez vous ce midi?
Alors, une très bonne brandade de morue.
Oh. Eh ben, on écoute le bruit de cuisine avant d'attaquer la brandade. Tiens, écoutons. Un bruit de saison. Une cave à vin Climadif à gagner. Ah, ouais. Il a trouvé Bruno Doucet. Un bruit de saison. Vous penseriez à quoi, Laurent?
Alors, c'est pas très facile, j'avoue, mais moi, je pensais genre à une machine manuelle pour concasser des glaçons.
Casser des glaçons? Ah, vous trouvez que c'est un bruit de saison? À concasser des glaçons, parce qu'il fait froid, c'est pour ça que vous dites ça.
On peut avoir de la glace sur la terrasse?
C'est mal barré.
C'est pas ça, malheureusement. Mais on le retrouvera la semaine prochaine et on vous envoie un livre de la rédaction pour vous remercier d'avoir joué avec nous, Laurent. Et bonne brandade!
Je salue aussi chaleureusement cet dernier. J'ai vu la pièce.
Ah, bah vous aussi, vous avez vu la pièce.
On l'a tous vu.
Ah, bah c'est formidable. Adorable. Merci beaucoup.
Bien, c'est aérien, c'est joli, très joli.
Ça fait du bien. Je préfère qu'on reste ensemble.
Mais oui, il faut rire et chanter. Voilà, ça fait du bien. Et manger.
Exactement.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
On croyait l'avoir converti au vin nature, mais il a relancé le débat, Olivier Pouls. Et vous nous dites une chose qui n'est pas totalement fausse à propos du vin nature. Ah, vous n'êtes pas d'accord?
Moi, je trouve que
dites ce que vous disiez pendant la pub.
Je trouve que le vin nature gomme un peu l'effet du terroir et du cépage, et que très souvent, le vin nature a davantage le goût de vin nature qui peut être agréable que le goût vraiment du lieu d'où il vient.
C'est quand il y a la carbo qui est la façon.
C'est quoi la carbo?
C'est la façon de vinification. Là, je suis d'accord avec toi, mais après, non, quand on a un Cabernet Franc nature ou qu'on a un Syrah nature, si c'est fait de façon naturelle et surtout de façon classique, non, ça reste quand même.
Bon, en tout cas, la tartiflette est rassembleuse.
Oh là là, incroyable, délicieuse, franchement.
Je disais pendant la pause que vous avez allégé la tartiflette parce qu'elle reste gourmande, elle reste rassasiante, nourrissante, mais en même temps, on a une sensation de légèreté. C'est la cuisson des pommes de terre à l'eau avant, peut-être.
Normalement, la tartiflette, souvent les gens cuisent les pommes de terre à l'eau, ils mettent ça avec le fromage, hein, c'est un peu lourdingue. Là, le fait de les faire sauter, je pense qu'on enlève une grosse partie de l'amidon, donc du sucre, et c'est ce qui fait que la pomme de terre est un peu plus légère.
Eh bien, merci Bruno Doucet. Merci pour cette belle tartiflette.
Bien d'accord.
Merci. Je préfère qu'on reste ensemble. La centième a eu lieu la semaine dernière. J'y étais et ça fait du bien de voir Michel Bernier s'amuser et nous amuser sur scène avec son partenaire Olivier Sitruc. On sent que vous entendez bien. Puis c'est la suite d'une première pièce de Laurent Ruquier.
Oui, c'était la première mouture. C'était Je préfère qu'on reste amis. Ouais. Et puis voilà, là, c'est 7 ans plus tard. Que sont-ils devenus? Et donc c'est le moment où lui il est un peu volage, donc et on a ouvert un karaoké, donc avant j'étais fleuriste et donc évidemment les jeunes filles qui viennent chanter sont un peu attirantes, donc pour Claudine c'est un peu compliqué de gérer cet homme qui est un ancien escort boy en plus, donc lui vis-à-vis des relations avec les femmes il est un peu
l'engagement, c'est
un peu compliqué,
c'est pas trop l'engagement son truc,
il s'est engagé avec elle,
mais
parce que il sait que c'est elle, c'est l'amour de sa vie et tout ça, mais quand même, tout ce qui est à côté se dit c'est pas très grave. Et elle, au bout d'un moment, elle en a marre, quoi.
Et il y a une belle trouvaille d'auteur, je trouve, puisque c'est Laurent Ruquier qui a écrit cette pièce. Et quand Claudine et Valentin, vos personnages, ont du mal à se dire les choses, quand c'est trop compliqué, ils utilisent une chanson, puisqu'ils tiennent un karaoké.
Voilà. Hein, oui. C'est une manière de donner les messages qu'on n'arrive pas à faire passer. Et en plus, j'ai de la chance parce que Laurent Ruquier écrit pour moi. Donc,
elle est pour vous, c'est du sur-mesure.
C'est du sur-mesure. Donc, il connaît tout à fait mes goûts pour la chanson. Et puis, mon envie de chanter tout le temps.
Vrai fan de variété. Moi, je vous imagine dans votre bagnole en train de chanter, moi.
Bah, tout le temps, mais à tue-tête.
Non, mais c'est vrai.
Non, mais bah, j'ai élevé mes enfants comme ça. Ma fille, encore plus que moi, un jukebox.
Vous
mon
chantez
fils,
qui, alors
c'est pas mal.
Les artistes qu'on retrouve souvent.
Oh, bah, pff, on va dire du Cabrel, du Julien Clerc, voilà, du Barbara, du Reggiani, de ce qui. Alors, en fait, moi, j'aime qu'on me raconte des histoires. Et je trouve qu'il y a. J'aime bien les textes où on me raconte une histoire. Donc, je suis assez férue de ça. Après, j'adore danser et tout, donc je peux m'éclater sur du Claude François, oui. Sur du Camaro et tout, je peux y aller à fond les ballons.
Alors demain, c'est le nouvel an chinois, on l'a fêté tout à l'heure. On a fait un tour de la cuisine chinoise, hein. Vous retrouverez d'ailleurs nos recettes et nos références en écoutant le podcast sur europe1.fr. Mais on va se mettre aussi à l'heure du vin chinois, Michel Bernier.
Ah bah voilà,
chers auditeurs, Bruno Doucet, voilà autre chose.
Tout arrive.
Les Chinois se mettent à faire du vin, mais alors attention, parce que oui, on aurait tendance à se moquer, mais quand ils prennent les choses sérieusement, ils peuvent nous surprendre, Olivier Pouls.
Alors, ça rigole pas avec le vin en Chine. J'ai eu la chance d'accompagner beaucoup le développement du vin en Chine, d'y aller beaucoup à une époque. Alors maintenant, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Mais je me souviens, il y a une dizaine d'années, quand je commençais à aller là-bas et qu'on rentrait en France, les vignerons français étaient pour le moins assez inquiet de voir ce qui se passait en Chine, parce qu'ils poussaient des vignobles comme des champignons dans un sous-bois humide. C'était absolument incroyable. Et d'ailleurs, la Chine a même pointé à un moment à la quatrième place des pays producteurs de raisins, c'était il y a 4-5 ans avant le Covid. Bon, aujourd'hui, honnêtement, la baudruche s'est quand même sacrément dégonflée, puisqu'entre 2015 et 2020, la production est passée de 13 millions d'hectos à 6 millions seulement. Donc ah c'est oui. En train de ah oui. Faire pchit, comme on dit.
Ça se dégonfle, qu'est-ce qui s'est passé ?
Eh bien, je vais vous raconter une anecdote et elle témoigne pas mal l'état d'esprit des Chinois qui se sont lancés un peu à corps perdu dans le vin. Un jour, je rencontre un producteur, quelqu'un qui avait beaucoup d'argent, qui avait investi énormément dans un beau château et dans un vignoble, et je lui dis, mais finalement, est-ce que le vin, c'est votre passion ? Et il me dit, on a un proverbe chinois, épouse d'abord la femme et ensuite apprend à l'aimer. Ça voulait dire donc qu'il était venu non pas dans le vin par passion, mais honnêtement un peu par cupidité, parce qu'il savait très bien que c'était quelque chose qui était très tendance, que le marché chinois s'ouvrait, et il espérait y faire beaucoup d'argent. Alors aujourd'hui, il déchante, parce qu'un grand vin, ça ne se fabrique pas, ça ne se décrète pas, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps.
Mais est-ce qu'ils sont bons ces vins chinois quand même ? Est-ce qu'il y en a de bons ?
Alors, ça progresse doucement. Il y a 15 ans, c'était franchement et honnêtement imbuvable. Non, mais c'est vrai, il faut dire les choses, c'était franchement imbuvable. Alors, ils ont envoyé beaucoup de jeunes Chinois dans nos écoles d'œnologie en France, ils les ont rapatriés chez eux. Ils savent aujourd'hui faire du vin techniquement, ils ont identifié quelques terroirs, ils ne vont pas évidemment faire en 10 ans ce que nous avons mis plusieurs siècles à mettre en place, mais il y a des petits trucs qui commencent à bouger un peu, et aujourd'hui, on peut dire que techniquement, la plupart des vins chinois sont propres, entre guillemets, sont buvables. Eh ben, je vous en ai apporté, hein, chers amis, et je vous invite à le déguster. Alors, c'est un assemblage bordelais, c'est-à-dire Cabernet Sauvignon, Merlot. Ah, c'est produit dans la province du Yunnan, qui est probablement les meilleurs terroirs aujourd'hui en Chine, qui est dans le nord de la Chine, fait selon ce qu'on pourrait trouver à Bordeaux. Eh ben, franchement, c'est pas mal.
Si on ne sait pas que c'est chinois, on pourrait penser que c'est bordelais. Quand même.
Oui, on pourrait penser que c'est... Mais alors, je dis une bêtise ou quoi, mais moi, j'ai trouvé une
goutte anisée.
Et
ça a quoi comme nom ?
Anisée.
Alors ça s'appelle Four Seasons, c'est Jade Vignard, c'est une jeune femme qui a beaucoup d'argent, qui a planté ce vignoble il y a une bonne dizaine d'années, je crois que c'est son deuxième millésime. Petit détail qui va vous intéresser, là-bas ça vaut 300 euros la bouteille.
Hein ? Ah oui.
Ah oui, oui, non, il rigole pas.
Produit de luxe.
Produit de luxe, parce qu'il se positionne immédiatement comme voulant challenger les plus grands vins français.
D'accord, mais nous, la dégustation, je vais dire la vérité.
Moi, c'est
quand
pas 300
on déguste,
euros la bouteille.
C'est un premier prix de Bordeaux pour moi, ça, la dégustation.
Voilà. On est au niveau d'un petit vin de Bordeaux sympathique à 10-12 euros.
C'est ça.
On n'est pas au niveau d'un grand cru.
Non, on ne nous prendra pas nos grands crus, s'il vous plaît.
Quel avenir pour ces crus chinois, alors, Olivier ?
Écoutez, je pense que ça va mettre beaucoup de temps. Ne resteront que ceux qui vraiment sont motivés, qui ont cette passion. On en reparle dans une ou deux générations.
Eh ben, avec plaisir. Et pendant que Yves Condebord termine la tartiflette cuisinée par Bruno Doucet pour Michel Bernier.
Les 6 kilos de tartiflette.
vous avez vu comment ça balance hein
Michel, c'est dingue.
Vous allez passer sur le grill des bons vivants, cher Michel.
Ah mon Dieu.
Quel est le goût de votre enfance, Michel?
Alors, ben, il y en a pas mal. On parlait des pommes de terre que faisait ma grand-mère. Et puis, maman était assez bonne en pâtisserie et elle faisait des œufs à la neige comme j'en ai jamais retrouvé, quoi. C'était tellement magnifique. Et ça reste. Et ben, elle faisait des crêpes Suzette aussi. J'ai encore la poêle en cuivre sur laquelle elle faisait. Enfin, c'est vrai, c'est des souvenirs tout d'un coup à la fois de quelqu'un qui prend le temps de faire les choses. Et c'est toujours pareil. C'est l'histoire de la générosité et du partage.
On veut faire plaisir. Et bon, on veut faire du bien. Votre plus beau repas?
Alors, mon plus beau repas, bah, j'en ai quelques-uns quand même. Hein.
J'imagine, avec toutes ces tournées, toutes ces belles tables.
On parlait de partage et de gentillesse. Et de, voilà. Pardon de dire ça, mais souvent, je trouve que dans les restaurants, alors, pour des raisons économiques, j'imagine, on ne peut plus garder les chefs trop tard, machin, etc., etc. Ce qui fait que, par exemple, en province, pour trouver un restaurant ouvert après 21h30, c'est une tannée.
Compliqué.
Et donc, je jouais à Orange. Je vais déjeuner dans un restaurant juste à côté du théâtre. Et puis, j'avais mes cousins qui sont du sud et qui venaient tous me voir. Et puis, le soir, j'ai dit, mais comment on va faire pour dîner à 10, 12, voilà. Et je parle de ça au monsieur du restaurant. Il me dit, oh non, mais moi, il me dit, ça m'embête, hein, si vous êtes pas là ce soir, ça va m'embêter, mais je peux pas garder mon chef. Mais il fait un tour, il revient, puis il me dit, bon, j'ai une meule de parmesan, je vais la couper et je vous fais des pâtes et je les mets dans la meule de parmesan et j'ai du jambon et je vous fais un tiramisu pour cet après-midi. Je pense qu'on a passé un dîner mais exceptionnel parce qu'il y avait cette envie de ce monsieur de faire plaisir, de se débrouiller comme il pouvait. Il avait plus son chef, mais il l'a fait lui. Et voilà, moi, ce sont des attentions que je trouve formidables de la part des restaurateurs. Mieux que de dire, oh ben non, c'est fini, la cuisine est fermée. La cuisine est fermée, le frigo est ouvert, il y a bien... Non mais c'est vrai.
Joli.
Il y a,
joli, il y a,
on va s'en servir de cette réplique.
On va s'en servir de celle-là. Qui sont les invités de votre dîner idéal?
Oh ben... mes enfants, mes petits-enfants maintenant, et mes potes, mes bons potes, et puis peut-être Julien Clerc pour en pousser une petite à la fin du repas.
Ma référence à moi. Le mot de la fin est Fayenne.
Eh ben, t'es très bonne cette tartiflette.
Et merci d'être venu.
Merci beaucoup.
C'est toujours un plaisir de vous avoir à table.
Un plaisir de vous avoir. Mais ouais, c'est tellement.
Et la cuisine est fermée. Mais le frigo est ouvert.
Et merci Bruno Doucet.
Merci de m'avoir accueilli.
On vous retrouve à la régalade, merci. Évidemment, merci. Au comptoir du Relais Saint-Germain. Merci Yves Candebord. Merci Olivier Pouls. Merci à ma belle équipe de m'avoir aidé à préparer cette émission. Lucie Lescourot à la rédaction en chef. Anaïs Kerdraon et Julien Amat à la rédaction. Avec Claire Dutron à la programmation et à la rédaction. Et merci Romain Causer à la réalisation. Merci camarades. À la semaine prochaine au studio Coluche. Et vous retrouvez tout en podcast, évidemment, sur Europe 1. Bon week-end.
Tous les secrets, toutes les astuces pour réussir parfaitement votre plat sont sur Europe 1. C'est la table des bons vivants avec Laurent Mariotte.